Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, Noël approche, période de paix et de réconciliation en principe, mais en Allemagne, un sapin de Noël crée la polémique. C'est celui du marché de Noël de la ville de Dresde, dans la Saxe. Un sapin tout rachitique, bien loin des canons de beauté traditionnels. Il symbolise les effets du changement climatique, Delphine Nerbollier.
Il est censé être l'un des plus beaux sapins de Noël de Dresde, installé devant la célèbre église Frauenkirche et sur le principal marché de Noël de la ville. Or voilà, cette année, ce sapin n'est pas très harmonieux. Il lui manque certaines branches, il est un brin déséquilibré et un peu maigrichon. Un peu trop pour représenter les festivités de Noël, aux yeux de nombreux internautes qui ont publié des commentaires sarcastiques ces derniers jours. Les organisateurs du marché de Noël de Dresde, eux, se défendent. Ils ont choisi ce sapin tout à fait volontairement, comme exemple de ce qui se passe dans les forêts saxonnes. Des forêts qui vont mal. La faute aux invasions de scolytes, ces insectes coléoptères. La faute à plusieurs années de sécheresse et à des incendies cet été. La Saxe vend chaque année 20 000 sapins de Noël, mais le business se porte mal. Alors pourquoi cacher cette réalité aux fêtards venus boire un vin chaud sous ses ramages. Décoré et illuminé, ce sapin un peu dégarni ne fait toutefois pas si mauvaise figure, d'autant que les organisateurs ont un peu cédé à la pression et ont fait visser quelques branches supplémentaires pour le remplumer. Dans la ville de Ulm, dans le Bade-Württemberg, en revanche, une initiative similaire a, elle, échoué. Sous la pression populaire, un sapin un peu trop maigre a dû être échangé, comme quoi, outre-Rhin, on ne plaisante pas avec les sapins de Noël.
Aujourd'hui, comme chaque semaine, les habitants d'Amiens, dans le nord de la France, voient un camion un peu spécial se garer dans leur rue. Quand on vit dans des foyers ou qu'on est à la rue, la priorité n'est pas la santé. Et bien souvent, les personnes en très grande précarité n'ont plus confiance dans le corps médical. C'est pour cela qu'a été créé le Mobisoin, pour aller au plus près de cette population. Un reportage de Lise Verbeck.
Tous les vendredis, le camion Mobisoin se gare à la même place, près d'une église d'Amiens, un endroit où se repose la journée des personnes sans abri. Valentin Poulet est accompagnant éducatif, il nous fait la visite.
Alors, il y a l'entrée, nous avons des petits bagages pour que les personnes peuvent ranger leurs affaires et nous aussi notre matériel. On a une table de soins pour faire les soins infirmiers, un lavabo et au fond on a la douche avec les toilettes juste en face. Et tout ça c'est séparé par des rideaux. Et on a du bon matériel pour tout type de public.
Cet après-midi-là, il est allé lui-même chercher sous un abribus pas loin une personne qui vit à la rue depuis 30 ans pour qu'elle puisse accéder à une douche et utiliser les toilettes. Daniel, lui, attend son tour. Il est installé sur une chaise sur le trottoir à côté du camion en buvant un café. Daniel habite depuis 4 mois dans un foyer d'hébergement d'urgence à quelques rues de là et il connaît bien le Mobisoin.
Parce que j'avais un pied abîmé.
Vous étiez blessé au pied,
ouais. Ouais, grâce aux infirmières qui m'ont soigné. Quoi. Ça a mis quand même 6 mois.
Et là, vous venez pour quoi aujourd'hui ?
Ah là, c'est pour la barbe.
Pour vous couper la barbe ?
Ça passe à un petit moment.
Ouais, vous buvez un petit café, vous discutez un peu, c'est important pour vous d'échanger un petit peu ?
Oui.
Ce camion mobile a été créé il y a 2 ans. Il est géré par l'ESIP, l'équipe spécialisée de soins infirmiers précarité, portée par l'association La Nouvelle Forge. Les infirmiers et aides-soignants de l'ESIP font des tournées chaque jour dans les foyers d'hébergement d'urgence pour soigner. Et le camion leur permet de toucher également les personnes qui sont sorties de ces foyers, qui vivent dans la rue et qui sont en rupture avec le monde médical.
C'est des gens qui sont très éloignés des structures de soins classiques, soit par des mauvais souvenirs, des longues hospitalisations, ou des gens qui ont peur aussi des hospitalisations et aussi peur du contact avec les autres, tout simplement parce qu'ils se sont très marginalisés et qu'ils ont l'habitude d'être seuls, et pour qui des fois rien que le mot infirmier peut faire peur.
Anne-Florence Videm est l'une des infirmières de l'équipe. Une grosse partie de son travail consiste à recréer un lien avec les personnes et instaurer la confiance.
On va aussi parfois juste discuter et pas forcément faire les soins les premières fois. Ça va être juste échanger un café, se présenter, attendre qu'ils aient confiance. Et ça peut prendre vraiment du temps. On a un monsieur qui avait une plaie infectée de la cheville qui nécessitait une intervention chirurgicale. On a mis un an avant de le convaincre. Un monsieur qui était très éloigné du soin et qui vivait au fond d'un bois dans une cabane. Et au fur et à mesure, on est venu boire un café avec lui, avec le camion. Il a accepté après de monter dans le camion, boire le café, puis ensuite de prendre une douche. Et ensuite, on a travaillé cette hospitalisation. Voilà. On a même été jusqu'à l'accompagner au rendez-vous à l'hôpital pour lui redonner confiance, etc. Et maintenant, c'est un monsieur qui a un hébergement seul, qui s'attient, qui a repris un travail, qui s'est fait opérer. Donc c'est des réussites. Alors parfois, c'est très très long, mais voilà, on a cette habitude, on est formé à ça.
Ne pas brusquer, prendre le temps de créer un lien, c'est ce que vont tenter l'équipe avec une jeune femme, Salia, qui se présente timidement cet après-midi-là devant le camion.
Bah ça me motive à ce que je puisse prendre soin de moi et puis tout en faisant connaissance avec eux, quoi, tout se passe bien.
L'infirmière sait qu'elle vit dans un squat et de l'avoir osé venir, même si c'est juste pour utiliser les toilettes, c'est déjà une grande victoire et un premier contact très important. Au total, l'équipe suit une soixantaine de personnes qui souffrent souvent de pathologies chroniques aggravées par la rue. Jérôme Villiers, le responsable de l'ESIP.
Le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance pulmonaire, qui nécessitent un accompagnement, un parcours de soins et un accompagnement sur la durée. Mais la problématique, c'est que cette population-là est sujette à ces pathologies bien plus jeunes que la population générale à cause de la vie rude à la rue et les conditions de vie, et puis à cause aussi d'autres troubles, que ce soit des troubles psychiques ou des troubles de l'ordre de l'addiction, qui favorisent du coup l'apparition d'autres pathologies chroniques.
L'équipe de soignants travaille étroitement avec les réseaux d'aide au logement, car la réinsertion vers le soin et le logement sont liées, l'une ne va pas sans l'autre. Le Mobisoin n'est donc pas une simple maraude, il identifie et suit les personnes en grande précarité sur la durée. Certains refusent temporairement une place en hébergement d'urgence à cause de mauvaises expériences, il faut donc leur redonner confiance pour les réinsérer.
Une personnalité transgenre quitte la Hongrie. Il s'agit de Tibor Noémi Kish, l'une des plumes les plus prometteuses de la scène littéraire hongroise. Mais le gouvernement ultranationaliste de Viktor Orban s'est lancé dans une campagne homophobe et l'a transformée en cible. À Budapest, Florence Labruyère.
C'est en 2016 que Tibor Noémi Kish fait ses débuts littéraires, avec un premier roman salué par la critique, Incognito. C'est l'histoire d'un coming out, celui d'un jeune homme qui vit en banlieue de Budapest. Entre journal de bord et confession, le livre raconte comment le protagoniste, un homme, découvre la femme qui est en lui et comment il fait accepter cette identité aux autres. C'est le prestigieux éditeur Magvetö, le Gallimard hongrois, qui édite le livre de Tibor Noé Kish, premier écrivain transgenre de Hongrie. Un deuxième ouvrage confirme son succès et les deux livres sont réimprimés plusieurs fois. Mais en 2020, le gouvernement ultranationaliste de Viktor Orban lance une campagne homophobe. Le parti du Premier ministre limite les droits des personnes transgenres. Et sous prétexte de protéger les enfants, une loi limite la diffusion de textes et de films qui parlent de l'homosexualité et du changement de genre. Si Tibor Noémi Kish donne quelques interviews sur le sujet, elle ne devient pas pour autant une militante. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est la littérature. Mais les médias pro-Orban vont la transformer en activiste déviante. Utilisant les rares interviews qu'elle a données, ces médias manipulent ses propos et la transforment en ennemi public. Résultat, quand les gens la reconnaissent dans les magasins, ils s'écartent d'elle. Cet été, Tibor Noémi a décidé de quitter sa ville, Pécs, au sud de la Hongrie. Elle s'est installée dans la Slovénie voisine, à 50 km de la frontière hongroise. La machine de propagande de Viktor Orban avait besoin de donner un visage à la campagne homophobe et ils m'ont choisi, explique-t-elle. Les transsexuels qui font leur coming out sont très rares en Hongrie et c'est sans doute pour cela que l'écrivain est devenu le bouc émissaire de la droite hongroise homophobe.
Direction la Turquie pour un ouvrage signé de la Turque Özge Samancı. Nager à contre-courant a été publié en France en octobre. Nous sommes en ligne avec notre correspondante à Istanbul pour en parler, Anne Andlauer. Bonjour Anne.
Bonjour, bonjour à tous.
Deux mots d'abord, Anne, sur la forme de cet ouvrage qui est en fait un roman graphique.
Et un roman graphique comme on en lit peu, qui mélange le dessin, le texte, les collages, les photos, les tampons, pour nous plonger dans la vie d'Özge, de l'école primaire à l'université, les moments marquants de son enfance, puis de son émancipation du cocon familial, les pensées qui lui passent par la tête, ce qui la rend heureuse et ce qui la fait douter, et puis tout ce qu'elle perçoit du monde des adultes et des événements politiques de la Turquie de l'époque, celle des années 1980 et 1990. Notons aussi que Nager à contre-courant est une traduction de l'œuvre originale, écrite et publiée en anglais en 2015.
Ce qui vous a d'abord frappé, Anne, c'est tout ce que ce roman graphique nous raconte à propos du système éducatif turc.
Oui, Nager à contre-courant est un témoignage précieux sur ce qu'a été et est encore en grande partie le système éducatif turc. La raison paraît évidente, le récit de Özge Samancı commence quand elle entre à l'école et se termine quand elle quitte l'université. L'enseignement et à travers lui l'avenir professionnel occupent donc une bonne partie du temps de la jeune fille et de sa sœur aînée, Pelin, et des préoccupations de leurs parents. Le livre montre très bien les travers de ce système éducatif, une forme d'embrigadement idéologique autour de la figure quasi sacrée d'Atatürk, le fondateur de la République, mais aussi de la religion à travers des cours d'éducation religieuse focalisés sur l'islam sunnite et rendus obligatoires à partir du putsch de 1980 par les militaires turcs qu'on décrit souvent un peu vite comme les garants de la laïcité dans ces années-là, sans prendre la peine de définir cette laïcité à la turque. Ou encore les inégalités selon que la famille est aisée ou pas, ce n'est pas le cas d'Özge dont les parents sont enseignants, ce qui permettra aux enfants d'accéder facilement ou non à des cours préparatoires pour espérer entrer dans les lycées les plus prestigieux, si possible, en bénéficiant d'une bourse. Ou encore le stress et la concurrence que ce système instaure entre les enfants et la culpabilité vis-à-vis des parents chez ceux qui ne réussissent pas assez bien au concours. Enfin, l'absurdité du concours d'entrée à l'université qui oriente les jeunes non pas en fonction de leurs aspirations, mais de leurs résultats à cette unique épreuve sous forme de QCM.
Le livre d'Özge Samancı illustre aussi très bien les fractures et les contradictions qui traversent la société turque.
Oui, et encore une fois, tout cela est très perceptible au travers du système éducatif, en particulier à partir du lycée. Özge se retrouve pensionnaire dans un lycée scientifique d'Istanbul où la majorité des élèves sont des garçons de familles conservatrices. Et les souvenirs d'Özge, la lycéenne, montrent très bien les fractures, la polarisation de la société, les étiquettes que les uns et les autres se collent, les islamistes contre les occidentalisés, l'incompréhension mutuelle et Özge qui s'indigne contre l'absence ou du moins la difficulté à trouver un entre-deux. Tout ça rappelle que Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP, ont hérité de ces fractures il y a 20 ans et soulignent rétrospectivement comment ils ont choisi de les exacerber plutôt que de les apaiser.
Alors Nager à contre-courant, c'est une mine d'informations au sujet de la Turquie, Anne, mais c'est avant tout un roman d'émancipation qui nous donne à voir une petite fille, une adolescente, puis une jeune femme en quête d'elle-même.
Oui, c'est le thème central du livre, le résultat de cette enfance traversée d'injonctions. Eh bien, c'est une adolescente et une jeune femme qui ne sait pas qui elle est, ce qu'elle veut, pourquoi elle est faite, qui a le sentiment de ne pas être à sa place, d'être tout le temps en échec. « Je me sentais comme un chien dans un jeu de quilles, je ne rentrais pas dans les cases », se dit Özge sur les bancs de la fac. Son père, en fait, voulait qu'elle soit ingénieure pour la sécurité de l'emploi, alors que, petite, Özge s'était rêvée nageuse olympique, actrice ou exploratrice des mers, comme le commandant Cousteau, son idole. Alors Özge se sent coupable de ne pas être à la hauteur, de décevoir ses parents. Le titre de la version originale anglophone du livre est d'ailleurs « Dare to disappoint », « Ose décevoir ». Et puis à la fin, grâce à ses expériences et aussi grâce à ses amis, Özge trouve sa voie, le dessin, et cela donne ce roman graphique brillant qui marie la naïveté et l'humour d'un regard encore jeune avec la gravité et parfois le tragique d'un pays et d'une époque.
Merci Anne, à bientôt. Le sommet sur la biodiversité se tient jusqu'au 19 décembre prochain au Canada. Le bilan global est au pessimisme. 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées de disparaître. Mais il y a malgré tout quelques bonnes nouvelles, Clémence Pénard, comme autant d'exemples à suivre. C'est le cas pour le lynx en France. Après avoir été menacé d'extinction, il est de retour.
C'est l'un des prédateurs les plus redoutables du règne animal. Pourtant, le lynx, on va pas se mentir, ça ressemble surtout à un très gros chat. Incapable de rugir, cette capacité étant réservée à ses cousins, tigres, lions et autres panthères, le lynx peut surtout miauler et ronronner. Bon, si l'espèce a failli s'éteindre en Europe au XXe siècle, c'est clairement à cause de nous. Premièrement, il y a eu le rétrécissement de son habitat à cause de la déforestation, de la bétonisation. Ensuite, entre la chasse, le braconnage ou encore les accidents de la route, le félin disparaît du territoire français à la fin des années 70. Heureusement, à cette époque-là, on a la bonne idée de réintroduire des lynx dans les forêts européennes, notamment en Allemagne, en Suisse, en Slovénie et en Italie. Et puis, la convention de Berne en 1979 permet de réduire drastiquement le nombre de lynx abattus. Ainsi, l'animal fait depuis plusieurs années un retour timide dans le nord et l'est de la France. Aujourd'hui, on compte 200 lynx en France et en Europe, près de 10 000. Et s'il y a des lynx, c'est une bonne nouvelle aussi pour la biodiversité en général, comme le bison, le renne ou encore le loup. En Europe, grâce à leur rôle dans la chaîne alimentaire, ils rééquilibrent la biodiversité. Selon les Nations Unies, en réintroduisant 20 grands mammifères terrestres, on pourrait même régénérer la biodiversité d'un quart du globe.
Une bonne nouvelle en partenariat avec Enter à retrouver sur leurs réseaux sociaux.
Écoute ce disque. Écoute ce disque.
Vendredi, c'est la musique avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Aujourd'hui, la Belgique et Murmusique.
Eh bien, je vous propose aujourd'hui de passer par la case prison avec l'étonnant projet belge Murmusique. Un projet au long cours, initié en 2018 par le Centre culturel Jacques Franck de Saint-Gilles, à Bruxelles, avec une poignée de détenus de la prison de Forest, à raison de 2 heures par semaine, et accompagné par 5 intervenants artistiques, les détenus ont imaginé un projet musical original au fil d'ateliers d'écriture et de séances d'enregistrement, avec une contrainte. Pas d'instrument de musique, dont l'autorisation aurait été trop difficile à négocier. Tous les sons, toutes les rythmiques et les mélodies sont donc produites en utilisant la voix, la bouche, les mains, les pieds. Un procédé qui a eu pour effet de stimuler l'imagination de chacun, mais aussi de placer tous les détenus sur un pied d'égalité. Les amateurs comme les musiciens confirmés. À la clé, quelques concerts, des vidéos et cet album de Murmusique dont le cœur penche du côté du hip-hop.
Manifestement. Le temps passe donc vive le vent. On a dû faire la bataille et on a vu tous leurs failles. Le rituel est sombre, sombre comme une tombe. Des rivières de sang partout dans le monde. Et on restera solidaire et on mourra solidaire. Manifestement, le temps passe donc vive le vent. On a dû faire la bataille et on a vu tous leurs failles. Le rituel est sombre, sombre comme une tombe. Des rivières de sang partout dans le monde. Et on restera solidaire. Et on mourra solidaire.
On s'inspire de speed, de la street, c'est ma vie. Des me harge la vie, des bitches j'en ai vu. Tout plein défilé devant moi et toutes les fins de moi. Un demandé chinois, il me chuchote le chétan de billets. Je sais que t'as la rétine sectionnée, la prison comme sanction. Et je sais que tout ça c'est pas facile, pourtant ça me fascine. La haine j'en magasine. Une carte coulée je fais ton magasin. Une bonne éducation, mon infini malsain. Je la revends à des inconnus, même à des amis, on change pas le tarif.
Manifestement. Le temps passe donc vive le vent. On a dû faire la bataille et on a vu tout leur faille. Le rituel est sombre, sombre comme une tombe. Les rivières de sang partout dans le monde. Et on restera solidaire et on mourra solidaire.
Va peine, va peine. J'assumais, j'assumais ma peine. Encerclé pour pouvoir en parler. Et après ça, vous pourrez me tuer. Ma peine et ma crainte. Ma crainte et ma peine et mes peines. Trop énorme pour pouvoir effacer. Je versais des larmes aiguisées. La street m'a rendu névrosé. Quand je suis triste, je fais l'amour jusqu'à l'épouser. J'ai voulu les billets. Les hommes et les femmes m'ont condamné. Les hommes et les femmes m'ont trop donné. Je sais, c'est cru. Tout ce que tu pas t'es rempli sûr. Tout ce que tu pas t'es rempli dur. J'ai fait briser ces chaînes. Quitter ce mur. Quitter ce mur.
Manifestement. Le temps passe donc vive le vent. On a dû faire la bataille.
Murmusique avec Rituel, accent d'Europe, à la réalisation Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur les plateformes d'écoute. À bientôt.
Ogląda tu zmienia się, smutne tratuje biewień.